Je ne vais pas présenter en détail Dragos Kalma, mais quand même, bon, je rappelle, tout le monde n'a pas le papier, qu'il est professeur associé à Dublin et qu'il est surtout connu pour des travaux sur le Liber de Causis.
Il est effectivement à University College à Dublin. Et nous allons parler du De Causis. Alors, je lis le texte de Dragos qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Ce jeu sera donc le... Non, pas celui de l'énoncé, enfin, entre l'énoncé et l'énonciation. Voilà. Bon. L'objet de la recherche que je décris se constitue encore. En effet, nous découvrons toujours de nouveaux manuscrits témoignant de la diffusion des éléments de théologie et du Liber de Causis. Des éditions de textes viennent de paraître, d'autres se préparent. Des analyses théoriques essaient de les situer chronologiquement et conceptuellement. Il est encore difficile de présenter une vision de l'ensemble. Pourtant, les données déjà recueillies sont suffisamment nombreuses pour tenter un état des lieux. Je l'esquisse à partir d'une question qui m'a été posée et qui, en fin de compte, est une question de bon sens. Pourquoi étudier en tant que médiéviste l'héritage de Proclus ? Ce pourquoi sera approché à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il présuppose un comment, parce que ce nouveau corpus de textes se laisse découvrir selon des méthodes que nous devons tantôt importer et appliquer, tantôt imaginer et ajuster. Mon intervention est structurée en trois parties. Dans la première, je clarifie le sens des expressions utilisées. Dans la deuxième, je présente quelques travaux de mes collaborateurs ainsi que mes propres travaux. Dans la troisième, je propose quelques réflexions sur cette tradition philosophique. Première partie, donc, conventions et définitions. Premier point, aujourd'hui, je traite uniquement de la version du Liber de Causis qui, avant 1187, a été traduite en latin à partir de l'arabe par Gérard de Crémone. Je ne mentionne pas la seconde version de l'opuscule publiée en 2001 et communément appelée Liber de Causis II. Deuxième point, par héritage de Proclus ou métaphysique de Proclus, j'entends les éléments de théologie. Ce choix est strictement d'ordre méthodologique et a le but de faire ressortir la cohérence du corpus analysé. Je ne me réfère pas aux autres textes de Proclus, les Tria Opuscula, la théologie platonicienne, les commentaires sur les dialogues de Platon et sur les éléments d'Euclide. Troisième point, l'expression « corpus des textes » désigne l'ensemble des commentaires déjà imprimés et encore inédits. Par l'expression « tradition exégétique », j'indique la cohérence interne et les rapports d'intertextualité caractérisant ce corpus. Il me faut à présent décrire ce corpus et quelques résultats des travaux récents. Corpus et travaux récents. Les médiévistes ont ou avaient l'habitude de compter 8 commentaires latins sur le Livre des Causes, composés par Roger Bacon, le pseudo-Henri de Gand, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Sigé de Brabant, Gilles de Rome, Jacques de Gostinin et Chrysostome Javelli. En 1983, Richard Taylor a publié une liste de 237 manuscrits latins du Liber de Causis et une liste de 31 commentaires latins sur le Liber de Causis. En effectuant des recherches systématiques dans plusieurs bibliothèques d'Europe et des États-Unis, nous avons identifié, en plus de cette liste, 28 manuscrits du texte et 70 commentaires. Le dernier, ou l'un des derniers commentaires sur le De Causis, est écrit par Nicolas Witow Kutschetich, Nicolas Vito di Gozzi, 1549-1610, humaniste et homme d'État de la République de Raguse, dans la région de Dubrovnik, en Croatie. Ce texte, jusqu'à présent ignoré, a été imprimé en 1580 à Venise. Les recherches sur les sources de première main ont apporté une masse insoupçonnée d'informations que l'on doit patiemment examiner. En premier lieu, nous avons constaté l'état précaire de nos connaissances sur la transmission manuscrite du Liber de Causis. Julia Zekeli, essaie de combler cette lacune en travaillant à un catalogue raisonné des manuscrits et à une édition plus fiable de ce texte. En effet, Adrian Patin, pour l'édition publiée en 1964, la plus couramment citée et traduite en 23 langues, a collationné entièrement seulement 10 manuscrits, soit moins de 4% des témoins connus. Deuxièmement, il faut revoir plusieurs hypothèses historiographiques. L'une d'elles soutient que l'intérêt pour la métaphysique de Proclus à l'Université de Paris disparaît à partir du dernier quart du XIIIe siècle. Qu'il connaît une vigoureuse réception en Allemagne, comme opposition au type d'enseignement philosophique professé à Paris, notamment chez les dominicains formés dans l'école d'Albert le Grand, tels Dietrich de Freiberg, Meister Eckhart, Ulrich de Strasbourg, Jean Tauler et surtout Berthold de Mosburg. Selon cette hypothèse, la mort de Berthold coïncide avec la fin de la réception de la métaphysique de Proclus en Allemagne. L'intérêt manifesté plus tard par Nicolas de Cuse ne serait qu'une exception. En somme, l'Occident latin, à l'exception digne d'admiration de l'Allemagne, a refusé d'assimiler la pensée de Proclus. Donc voilà la Vulgate, en somme, n'est-ce pas ? En réalité, nous avons des preuves que les dominicains du Midi de la France le commentent et l'enseignent dans les Studia entre 1289 et 1334. Jean Crossbein, un dominicain allemand actif après Berthold de Mosburg et avant Nicolas de Cuse, a commenté toutes les œuvres d'Aristote, mais aussi le Liber de Causis et les éléments de théologie. Les catalogues du XVe siècle de la bibliothèque des Dominicains de Pérouse font état de plusieurs manuscrits contenant le De Causis ou le commentaire de Thomas au De Causis. Plusieurs commentaires sur le Liber de Causis ont été écrits à Paris à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Durant l'année académique 1416-1417, Gilles Charlier commente à Paris les sentences de Pierre Lambard en se référant explicitement aux éléments de théologie. Émeric de Campo, ami de Nicolas de Cuse, auteur d'un bref commentaire au De Causis et bon connaisseur de Proclus, a assisté aux leçons de Gilles Charlier. Zénon Kaouja vient de publier une contribution importante sur le sujet. Mario Meliado a récemment étudié et partiellement édité un commentaire au Liber de Causis composé toujours à Paris, toujours autour de 1417. Son auteur est, selon toute vraisemblance, Jean Wenck de Ehrenberg, connu pour sa polémique avec Nicolas de Cuse. Les premières décennies du XVe siècle à Paris correspondent, rappelons-le, au renouveau de l'albertisme par Jean de Maisonneuve. Laure Miolo a étudié le registre de prêts de la bibliothèque du Collège de Sorbonne et les inventaires des bibliothèques de Merton College à Oxford et de Peterhouse College à Cambridge. Ses conclusions sont claires. Au Collège de Sorbonne, les manuscrits apparentés au Liber de Causis, c'est-à-dire contenant soit le texte, soit des commentaires, ont été plusieurs fois empruntés entre le XIIIe et le XVe siècle, alors que les manuscrits des éléments de théologie n'ont pas beaucoup circulé. En revanche, ils ont été plus diffusés à Oxford et Cambridge qu'à Paris. Les manuscrits apparentés au De Causis ont également beaucoup circulé dans les milieux anglais. Sur ce même milieu portent deux autres études remarquables. L'une est signée par Irene Cagliazzo et l'autre par Fiorella Retucci. Irene Cagliazzo montre que le Liber de Causis a été très tôt rapporté d'Espagne en Angleterre. Le manuscrit de la bibliothèque Bodleian d'Oxford, Selden Supra 24, est l'un des plus anciens témoins latins de l'opuscule. Il provient du monastère de Saint-Alban, où s'est installé Alexandre Neckam après son retour de Paris et avant l'enseignement à Oxford. Dans le Speculum Speculationum rédigé avant 1213, Neckam cite le De Causis. Alfred de Sarcelles dédie le De Motu Cordis à Neckam et semble utiliser le chapitre 17 et ou 18 du 145 du Liber De Causis, sans aucune mention explicite. Le franciscain Thomas Bjork écrit son ouvrage monumental intitulé Sapientiale vers 1259-1260, alors qu'il était à Oxford et à Cambridge. Fiorella Retucci a montré que 22 chapitres du Liber De Causis sont cités 104 fois dans le Sapientiale. Par comparaison, Meister Eckhart se réfère explicitement à 18 chapitres dans 80 occurrences. Bertold de Mosbourg, qui étudie chez les dominicains d'Oxford vers 1314, utilise massivement le Sapientiale de Thomas Bjork dans son commentaire aux éléments de théologie. Ce dernier vient d'être édité en 8 volumes par les soins de Loris Turlese et son équipe de Lecce. Il gagne de plus en plus l'attention des chercheurs. Des thèses de doctorat, Ezekiel Ludueña, Evan King, d'habilitation, Paul Hellmeyer, et des colloques, en octobre prochain à Dublin, lui sont entièrement dédiés. L'influence de Bertold sur les médiévaux reste à étudier. Il est cité explicitement dans un commentaire anonyme sur les sentences, transmis dans un manuscrit munichois, et par le dominicain Franz von Retz, 1343 et ou 1348, enfin entre 1343 et 1348, mort en 1427, doyen de la faculté de théologie de l'université de Vienne, collègue avec Heinrich von Langenstein et Heinrich Totting von Heuta. En revanche, il semble que Bertold n'a pas influencé les deux autres commentaires latins sur les éléments de théologie actuellement connus. L'un écrit par Jean Crossbein, déjà mentionné, et l'autre anonyme, préservé dans un manuscrit de la Bibliothèque Vaticane. Ces quelques exemples suffisent pour montrer que ce corpus n'est pas une somme de textes juxtaposés les uns aux autres, mais un réseau exégétique constitué progressivement dans le temps et dans l'espace, du XIIe au XVIIe siècle, de Cambridge à Prague, de Naples à Uppsala, et reliant plusieurs centres d'enseignement, école, studia, université. Troisième point, penser aux traditions philosophiques. Pourquoi donc étudier en tant que médiéviste l'héritage de Proclus ? Pour comprendre, dans le contexte historique, l'évolution des concepts qui, à la fois, suscite la confrontation ou résulte de la confrontation avec cette pensée profondément étrangère, profondément différente de ces milieux d'accueil. Les commentaires découverts sont composés tantôt par des auteurs qui resteront à jamais anonymes, tantôt par des auteurs qui sont comme des anonymes. Ce ne sont pas des auteurs qui arrachent des cris d'étonnement, des « bombshells », selon l'expression d'un remarquable byzantiniste. On pourrait croire qu'en étudiant ce corpus et cette cohorte d'anonymes, on occupe une position marginale par rapport aux tendances actuelles. En réalité, l'héritage de Proclus occupe une place singulière dans l'histoire de la pensée, dans la mesure où, directement ou par l'entremise du Liber De Causis, les éléments de théologie sont un texte traduit et commenté en 6 langues, dans plusieurs milieux culturels, en terre d'islam, en arabe et en persan, à Byzance, en grec, dans le Caucase chrétien, en géorgien, et en arménien, dans l'Occident, en latin, et dans les communautés juives d'Italie, en hébreu. Sur cette dernière, Jean-Pierre Rothschild vient de publier une très importante monographie. Au IXe siècle, à Bagdad, on écrit le Liber De Causis dans le cercle d'Al-Kindi. Au XIXe siècle, à Berlin, Hegel loue chez Proclus, plus que chez Plotin, la profondeur et la systématicité de sa réflexion sur la tradition platonicienne. 50 ans après la mort de Hegel, Otto Bardenhever publie les éditions arabes et latines du Liber De Causis. d'Alkindi à Hegel, 1000 ans de réception polymorphe de Proclus, que l'on connaît si peu, finalement. Étudier en détail, ne serait-ce que partiellement, l'histoire de cette réception serait une tâche bien laborieuse, mais elle pourrait dessiner autrement les cartes de la philosophie médiévale. On saura distinguer à ce propos une réception convergente, d'après des mécanismes très similaires d'appropriation conceptuelle, positive ou critique, mise en place dans des milieux culturels distincts par des auteurs n'ayant aucune connaissance les uns des autres. Elle est d'autant plus intéressante à suivre dans les exégèses d'un texte qui n'est pas porteur de messages neutres ou en conformité avec le milieu culturel de sa réception. Proclus assume d'une manière explicite et programmatique ses dettes envers le paganisme hellénique. Il suffit de rappeler les énades, ces substances autoconstituantes au-dessous de l'un qui ont un rôle déterminant dans la causalité des effets, ou le statut métaphysique de l'un qui est dépourvu de volonté, ou encore la question centrale de la participation qui exclut l'idée de création. Proclus est pourtant reçu, directement ou indirectement, dans les trois traditions abrahamiques. Dans le christianisme byzantin, l'évêque Nicolas de Métone, au XIIe siècle, le rejette dans une ample réfutation. Quelques années plus tard, Ioanne Petritzi, formé à Byzance, compose en géorgien un commentaire très favorable qui sera plus tard traduit en arménien. Dans l'Occident latin, Berthold de Mosbourg, sans connaître et Ioanne Petritzi, présente également des modalités d'appropriation de la métaphysique de Proclus, sans connaître et probablement sans avoir lu, n'est-ce pas, Ioanne Petritzi, et à coup sûr même. Le commentaire de Thomas d'Aquin sur le Liber de Causis est aussi, dans une certaine mesure, une exégèse sur les éléments de théologie. Thomas, qui n'a pas connu Nicolas de Métone, emploie la stratégie de celui-ci. Il combat Proclus en prenant appui sur le pseudo Denis l'Aréopagite. L'étude approfondie de ces comparaisons, en partant surtout du corpus Dionysiacum, d'une importance capitale pour Berthold, pourra mettre en évidence des ressemblances et des dissemblances entre ces divers textes composés dans des périodes très différentes et par des auteurs qui ne pouvaient pas s'influencer directement, ni réciproquement. Une dernière remarque à ce sujet. La réception de Métone dans l'Occident latin est très peu connue. Pourtant, elle n'est pas dépourvue d'intérêt. Marsilio Ficino, un enthousiaste de Proclus, possédait un manuscrit de la réfutation sur lequel il a laissé quelques notes. On connaît actuellement deux traductions latines inédites du texte de Métone. L'une est faite par l'humaniste Bonaventura Vulcanius, professeur de grec à l'université de Louvain, mort vers 1614. L'autre est anonyme. J'ignore le contexte et le but de ces traductions. Mais il faut aussi les étudier du point de vue de la transmission du texte des éléments de théologie, parce que Métone le cite intégralement. Par conséquent, il faudrait compter et même comparer les 5 traductions latines des éléments de théologie. Celle de Guillaume de Merbecke, de 1268, celle de Francesco Patrizzi, publiée en 1583, celle publiée par Emilius Portus en 1618, et les deux intégrées dans la réfutation de Métone que je viens de mentionner. Il ne reste plus de temps pour décrire les autres modes d'appropriation. J'en mentionnerai encore 2 seulement. Après donc la réception par convergence, la réception par répétition, qui correspond à des mécanismes d'appropriation conceptuelle caractérisés par la réitération des mêmes problématiques, soit au sein de la même institution, soit dans des institutions différentes. Graduellement, se met en place un capital argumentatif, stock arguments, qui joue un rôle important dans la transmission doctrinale du texte commenté. Contrairement à la réception convergente, la réception par répétition présuppose l'influence d'un auteur sur l'autre, qu'elle soit consciente et explicite ou non. On observe cette pratique en comparant les questiones des divers commentaires universitaires du XIIIe et du XIVe siècle ou les quodlibeta des nouvelles universités de l'Europe centrale, Prague, Erfurt, Leipzig. La réception évolutive. La réception évolutive se développe à la suite de ou simultanément avec la réception par répétition. Mais dans ce cas de figure, les auteurs font un recours plus libre au capital argumentatif. Cette réception évolutive aboutit rapidement à de nouveaux concepts ou à des théories nouvelles. Deux études récentes, l'une par Julia Zekely et l'autre par moi-même, sur la réception de la première proposition du Liber de Causis, ont montré comment, d'une part, la critique de Sigé de Brabant contre l'explication philosophique de l'Eucharistie par Thomas d'Aquin est apparentée aux critiques de l'occasionalisme d'Al-Ghazali par Averroès et Maïmonide. Et d'autre part, comment cette même critique est reprise par quatre auteurs parisiens de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle et refait surface à l'université de Prague au début du XVe siècle. On observe que ces auteurs utilisent les mêmes arguments que Sigé, souvent ad litteram, mais qu'ils ignorent leur origine. De surcroît, la question de l'Eucharistie, à deux exceptions près, est remplacée par d'autres sur la volonté divine, sur la temporalité ou encore sur les effets immédiats de la cause première, ab uno non nisi unum. Quatrième point, en guise de conclusion. Où va la philosophie médiévale ? L'itinéraire que je décris était inattendu. Sa destination reste inconnue. Il est pourtant clair que c'est l'itinéraire d'une marche longue que l'on doit faire à plusieurs. On avance tantôt sur des routes bien connues, reliant Athènes, Bagdad et Paris, tantôt sur des sentiers moins battus, de l'Europe centrale, du Caucase ou du nord de l'Europe. On ne peut avancer que lentement, très lentement. Tout le corpus ou presque est neuf et couvre près de 600 ans d'histoire de la pensée. Les travaux de fond, à l'abri des lumières de la rampe, rendent service à la communauté des savants. Nous en faisons notre priorité. S'il y a d'autres itinéraires, c'est qu'il y a d'autres destinations, concluait Alain de Libera dans sa leçon inaugurale. Je vous remercie.